L'ours et la carotte. Il faut se creuser la tête pour sauver la planète.
Alors cette semaine, je vous emmène en Camargue. On n'y est jamais venu et pourtant c'est un territoire où de nombreux enjeux se jouent pour l'avenir. C'est à la fois une histoire de naturalisme, c'est une histoire de protection de la nature, c'est une histoire de dialogue entre l'homme et la nature, et c'est une histoire donc qui va se jouer aussi dans les années à venir. Pour en parler, notre première rencontre cette semaine, c'est, je vous présente Gaël Emery, qui est le directeur de la réserve naturelle de Camargue. C'est par là que tout a commencé au début du XXe siècle. La Camargue était un territoire de marais, donc, où deux professions se sont un petit peu s'affronter, on va dire, ceux qui voulaient faire du sel et ceux qui voulaient faire de l'agriculture et déverser l'eau du Rhône, l'eau douce dans ces étangs. Alors qu'est-ce qui se jouait, Gaël Emery, à cette époque-là? C'était quoi? On transforme soit les étangs en eau douce, soit en eau salée?
Oui, donc au début du XXe siècle, la Camargue commence un petit peu à intéresser le capital, hein, pour parler clairement. Donc on a des volontés d'aménager de manière un peu importante ce territoire qui a des valeurs agronomiques, mais qui a aussi la particularité d'avoir de grands espaces qui n'ont jamais été aménagés ou vraiment utilisés. Et donc au début du XXe siècle, pour faire court, il va y avoir une opposition entre les viticulteurs qui ont besoin au nord de la Camargue d'utiliser de l'eau douce pour inonder leur vignes et rejeter cette eau douce dans l'étang central de la Camargue qui est l'étang du Vacarès, et les saliniers qui viennent d'acheter de très très grandes superficies sur le littoral qui veulent utiliser cet étang du Vacarès comme un réservoir d'eau salée pour produire du sel. Et donc cette bataille va durer quelques années, jusqu'à un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui est connu pour ça, c'est-à-dire que cet arrêt va dire en fait ce sont les saliniers qui ont raison, on ne peut pas rejeter de l'eau douce hors les eaux de pluie, hors les eaux de précipitation, le point le plus bas n'est pas voué à accueillir des eaux en surplus. Donc les saliniers gagnent leur procès, mais la décision de justice ne sera jamais appliquée. Et donc les saliniers qui étaient des pragmatiques ont décidé de faire autre chose du coup de ce territoire, voyant qu'ils ne gagneraient pas leur rapport de force avec les agriculteurs. Ils décident en fait de confier cet espace aux premiers naturalistes de France qui sont au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, notamment autour d'une société qui s'appelle la Société Nationale d'Acclimatation. Et ils se sont rendus compte que c'était un territoire qui était fantastique, quoi, d'un point de vue naturel, paysager. Donc ils vont confier ces grands espaces, à peu près 10 000 hectares à l'époque, à ces naturalistes et créer la première réserve de France qui portait le nom à l'époque de réserve naturelle botanique et zoologique de Camargue.
Alors qui c'est qui porte ça à l'époque? Ce sont des scientifiques, parce qu'en général, la France à cette époque-là était très animée par tout un tas de sociétés savantes localement. Donc c'est plutôt une ambition nationale, une ambition locale, les deux à la fois?
C'est un peu un mélange des deux. Il y a une volonté locale, notamment en lien avec des mouvements culturels, notamment le Félibrige, qui est un mouvement qui veut défendre la culture provençale et notamment la langue provençale. Et un certain nombre de personnalités éminentes de ce Félibrige vont demander la création d'un parc national, puisqu'ils ont entendu parler de la création du parc national du Yellowstone aux États-Unis, qui est le premier en fait grand espace naturel protégé créé sur Terre. Et donc ils vont dire il faudrait qu'on ait un petit peu la même chose en Camargue. Donc il y a ces mouvements qui vont pousser. Ensuite, effectivement, les premiers naturalistes sont des scientifiques du Muséum d'Histoire Naturelle, et eux donc ils voient une opportunité d'étudier cette nature. Et après, il y a la volonté pragmatique des acteurs locaux qui se disent, en fait, peut-être qu'on peut avoir une zone un peu neutre entre les saliniers au sud et les agriculteurs au nord, qui permet de faire un petit peu de tampon entre les conflits. Voilà, donc c'est un peu un mélange des trois.
Alors on est clairement, c'est le Rhône donc qui arrive ici et qui se jette dans la mer sur une grande étendue plate et donc où se mélange eau salée, eau douce. Il y a des étangs à côté, j'ai amené ma petite fille avec moi on est pendant les vacances. Elle voulait vous poser une question en arrivant ici.
Juste pourquoi, est-ce que c'est de la mer ou est-ce que c'est de l'eau plate?
Oui, parce qu'on arrive dans des étangs et c'est vrai que cet étang du Vacarès est énorme. Alors ici, le Vacarès, c'est quoi? C'est salé, c'est doux?
Alors le Vacarès, c'est un très grand plan d'eau, effectivement. Tu peux avoir l'impression que c'est la mer, mais ce n'est pas la mer. Il y a des petites dunes, et après il y a la mer. Et en fait, c'est un mélange d'eau douce et d'eau salée. Donc il y a l'eau de mer qui arrive par le sud et l'eau douce qui arrive par le nord. Donc c'est un mélange, on appelle ça l'eau saumâtre. Donc c'est ni doux ni salé, c'est entre les deux.
Et alors, la réserve là que vous gérez, elle mesure combien maintenant
Alors, la réserve fait 13 230 hectares.
Donc elle n'a pas beaucoup augmenté depuis les années 20.
Non, il y a à la marge, en fait. Donc, ça reste quand même très... on est resté à peu près sur la même unité. Donc, c'est une très grande réserve. C'est la plus grande réserve de zone humide de France métropolitaine, qui est composée à 70% d'eau. Donc, c'est quand même aussi une particularité. Voilà.
Alors, vos missions, vous, ici, c'est quoi ?
Alors, les réserves nationales en France, elles ont des missions qui sont cadrées par le Code de l'environnement. Donc, c'est d'abord de protéger cet espace, donc il y a une réglementation qui est associée à chaque réserve, donc c'est comme un décret ou un arrêté du ministre qui dit sur cet espace vous n'avez pas le droit de faire ça, 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 donc souvent c'est très strict les réserves nationales.
Donc ici c'est quoi, on n'a pas le droit de faire quoi?
Alors la réserve de Camargue c'est une réserve intégrale, donc il y a très très peu d'activités possibles, l'ouverture du public se fait en périphérie, les seules activités qui sont possibles sont les activités de recherche, de surveillance et la possibilité aussi d'utiliser du bétail pour le pâturage, donc c'est les seules possibilités d'activités à l'intérieur de la réserve. Donc protéger, suivre scientifiquement pour voir comment évolue le milieu. Et après, c'est sensibiliser. Donc on peut sensibiliser aussi via nos outils et nos équipements d'accueil.
Alors le suivi scientifique, justement, qu'est-ce qui a été observé de particulier depuis, là on a quand même bientôt 100 ans d'analyse, de suivi, alors même s'ils ont dû être plus performants depuis les années 60-70, mais plus fin en tout cas, plus précis, plus scientifique. Qu'est-ce qu'on voit de l'évolution de ce milieu ?
Alors, déjà, on ne peut pas tout suivre dans un espace qui fait 13 000 hectares. On est obligé de suivre certains paramètres, ce qu'on appelle nous des indicateurs, qui nous permettent d'évaluer l'état de santé de la réserve. Donc, ce qu'on suit, pour faire simple, c'est tout ce qui est les niveaux d'eau et la salinité de l'eau, le stock de sel, c'est-à-dire la quantité de sel dissous dans l'eau, les herbiers, par exemple, c'est-à-dire les plantes à fleurs qui vivent au fond des étangs, les oiseaux d'eau aussi, on compte les oiseaux tous les mois, d'autres paramètres aussi, voilà. Et donc, à partir de ça, on essaye d'avoir une évaluation, en fait, de ce qu'on appelle l'état de conservation de la réserve. Donc, ce qu'on constate depuis le début du XXe siècle, alors, il faut savoir qu'on a vraiment des suivis un peu solides à partir des années 40, 50, 60. Avant, c'est pas forcément très facile à interpréter. En fait, ce qu'on constate, c'est que c'est... Alors, depuis 2017, ce qui est sûr, c'est qu'on constate une salinisation de l'espace, donc une augmentation de la salinité des étangs, notamment, en lien avec la pression de l'eau de mer aussi.
C'est-à-dire, c'est l'augmentation du niveau de la mer qui est imperceptible, mais qu'ici, comme c'est tellement au niveau de la mer qu'elle commence à rentrer ?
Oui, alors ça peut être lié simplement au niveau marin, mais ça peut être aussi, et ça, c'est pas tout à fait sûr, mais on essaye de le comprendre, à ce qui se passe dans le sous-sol. Puisque dans le sous-sol, on a ce qu'on appelle le biseau salé ou coin salé, c'est-à-dire en fait, c'est des eaux salées qui sont dans le sous-sol et qui peuvent remonter en fait à la surface par l'évaporation ou par des, ce qu'on appelle des veines, des passages. Et donc, ça va influencer la salinité de l'eau et des surfaces aussi. Donc,
pourquoi il y en aurait plus maintenant ?
Parce que la mer est plus haute, donc elle a augmenté de quelques centimètres depuis le début des années 2000. La plupart du temps, quand on essaye de faire sortir les étangs à la mer, c'est la mer qui rentre. Et aussi parce que les niveaux moyens des étangs ont baissé, c'est-à-dire qu'on a eu plusieurs années de sécheresse, et donc que les étangs étant plus bas, ils sont plus soumis à cette pression du sel. Donc une augmentation de la salinité, une augmentation aussi de la pollution chronique, donc qui arrivent dans l'étang, des pollutions d'origine agricole, atmosphérique, d'origine rhodadienne aussi, c'est-à-dire qui arrivent du Rhône.
Et ça c'est fou parce qu'en fait on voit en France quand même, il y a eu de plus en plus de réglementations pour l'utilisation des produits phytosanitaires, il y a une désindustrialisation de la France et on voit la pollution augmenter. Normalement elle aurait dû baisser, on va dire justement depuis les années 40, 40 à 70 où il y a eu beaucoup de pollution, là les normes sont strictes et on voit la pollution augmenter, pourquoi ?
Alors il y a plusieurs, pour le cas de la Camargue et de l'étang du Vacarès, il y a plusieurs raisons, il y a le fait que je ne l'ai pas dit, c'est que l'étang du Vacarès c'est ce qu'on appelle une lagune confinée, c'est-à-dire que c'est une lagune qui est loin de la mer, et donc ces échanges avec la mer se font de façon non régulière. Donc ce n'est pas un espace qu'on peut lessiver ou rincer, pour parler clairement, facilement. Donc on a une accumulation aussi des pollutions dans le sédiment depuis des décennies. Ça, c'est ce qu'on constate. Donc on retrouve par exemple toujours aujourd'hui, au milieu du Vacarès, grâce à des maintenant suivis précis qu'on peut faire, des herbicides extrêmement toxiques comme l'atrazine qui sont interdits depuis 2003. Donc on a des phénomènes probablement de rémanence qui ne sont pas forcément bien connus. Donc on a cet effet cumulatif et aussi on a l'effet cocktail. C'est-à-dire qu'on rajoute des produits différents depuis 40 ans et donc ces effets cocktail qu'on ne connaît pas très bien, mais qu'on commence à discerner maintenant, ont un impact qui s'inscrit sur le très très long terme. Et comme le temps de résidence de l'eau dans le Vaccarès est de 30 ans minimum, en fait, vous n'avez pas de possibilité de rincer cet espace à la mer. On pourrait aussi remarquer que si on rince à la mer, on pollue la mer. Mais voilà, en tout cas, on n'a pas ce phénomène qui pourrait aider à l'amélioration de la situation. Voilà.
Alors, salinisation, pollution, quelles sont les conséquences sur le milieu? Vous en avez vu sur la faune et la flore?
Alors, la salinisation, ça va avoir un impact sur... Alors, il y a plusieurs impacts. Le fait qu'on va avoir les communautés végétales qui vont changer, puisqu'il y a des espèces qui ne vont plus pouvoir se développer avec trop de sel. Par exemple, tous les canards herbivores, donc des canards qui mangent essentiellement des herbiers l'hiver, ont quasiment disparu de la réserve, parce qu'il n'y a plus ces herbiers. Donc on va avoir des changements dans les communautés végétales qui vont avoir un impact sur le changement des communautés animales. Par contre, tout ceci est un peu à tempérer, c'est-à-dire que dans un changement, il va y avoir des côtés positifs et des côtés négatifs. Par exemple, on a de plus en plus de flamants roses, parce que l'augmentation de la salinité, lui, ça va lui profiter. Donc on va avoir certaines espèces qui ont quasiment disparu, qui sont beaucoup plus exceptionnelles, et des espèces qui vont profiter, en fait, de la salinité. Et puis, la pollution, ça va avoir un impact aussi sur les herbiers, puisque les herbicides qui arrivent dans le Vaccarès, bah, évidemment, ça a un impact sur les herbiers, c'est assez logique. Et la disparition des herbiers, c'est ce qu'on a quasiment constaté dans les années 2015-2017. Aujourd'hui, on a à peu près 4% de recouvrement, alors qu'on a eu 25%, voire plus, il y a une vingtaine d'années. Donc les impacts, c'est qu'on a plus de turbidité dans l'étang, donc plus de rémanence des produits.
Turbidité, on rappelle.
La turbidité, c'est le fait que l'étang va être trouble, en fait, hein, puisque les herbiers ont la possibilité de limiter cette turbidité parce qu'ils fixent le sédiment. Donc plus de turbidité, donc ça empêche encore plus les herbiers de s'installer puisqu'il y a moins de lumière, donc c'est une espèce de cercle vicieux. Donc moins d'alimentation, moins de cache pour les poissons, moins de cache pour toute la faune associée, et donc un étang qui perd un peu en diversité et en richesse. Voilà.
On va faire une petite pause musicale.
Oui.
Qu'est-ce que vous avez envie d'écouter?
Gérard Mancé, Le Voyageur Solitaire.
Il voyage en solitaire, nul ne l'oblige à se taire. Il chante la terre, il chante la terre. Et c'est une vie sans mystère qui se passe de commentaires pendant des journées entières. Il chante la terre, mais il est seul. Un jour, l'amour l'a quitté, s'en est allé faire tour de l'autre côté d'une vie où il n'y avait pas de place pour se garer. Il voyage en solitaire, et nul ne l'oblige à se taire. Il sait ce qu'il a à faire. Il chante la terre. Il reste le seul volontaire, puisqu'il n'a plus rien à faire. Plus fort qu'une armée entière, il chante la terre. Mais il est seul. Un jour, l'amour l'a quitté, s'en est allé faire un tour de l'autre côté d'une vie où il n'y avait pas de place pour se garer. Et voilà le miracle en somme, c'est lorsque sa chanson est bonne, car c'est pour la joie qu'elle lui donne qu'il chante la terre.
Alors nous sommes de retour avec Gaël Emery, directeur donc de la réserve naturelle de Camargue, gérée donc par la SNPN. On n'en a pas parlé, cette Société Nationale de Protection de la Nature, qu'on connaît assez peu. On va en deux mots, c'est quoi cette SNPN qui date elle aussi en fait de la création de cette réserve en 1927?
Alors elle est même antérieure puisqu'elle a été créée en 1854.
Donc c'est
sous un autre nom, et elle est devenue SNPN parce que à l'époque, en 1854, on essayait plutôt d'acclimater des espèces plutôt que de les protéger, puis ça a évolué. Donc c'est une association qui est née vraiment des scientifiques qui travaillent au Muséum d'Histoire Naturelle, donc elle a une racine parisienne en fait, et très scientifique. Donc elle est restée une association dite savante, et c'est ce qu'elle revendique aujourd'hui, qui est donc un positionnement particulier, c'est pour ça qu'elle est moins médiatique que d'autres associations nationales. Elle est aussi connue parce qu'elle est à l'origine de la création de plusieurs grands espaces protégés, notamment des réserves dans les Pyrénées qui ont été la base du parc national ou aussi dans la Vanoise, la réserve de la Plaine des Morts dans le Var, la réserve de Camargue, mais aussi la réserve de Grandlieu en Loire-Atlantique. Donc c'est une association qui est aussi un gestionnaire de grandes réserves. Voilà. Et donc elle est toujours évidemment très active aujourd'hui et elle œuvre toujours. Elle fonde son positionnement sur la recherche scientifique.
C'est pour ça que tu disais qu'elle était moins médiatique et qu'on en entendait moins parler, c'est qu'elle travaille dans l'ombre, elle fait un travail de lobbying aussi, j'imagine, dans les ministères,
mais voilà,
d'une autre façon que beaucoup d'associations. On l'a vu, donc la Camargue se retrouve face à cette salinisation, face à l'accumulation de pollution aussi. Mais vous, votre rôle est de laisser faire la nature, donc vous ne faites qu'observer et il n'y a pas d'action, ou est-ce qu'il y a aussi une gestion un peu plus active? On l'a vu, hein, comme on dit, dans une réserve, on n'a pas le droit de faire beaucoup de choses. C'est une réserve intégrale ici, donc très peu de choses. Comment vous essayez de gérer ou pas le milieu?
La réserve de Camargue, elle a été conçue de manière un peu... Bon, c'est l'histoire qui a fait ça, mais c'est vrai qu'on n'a pas, nous, les clés de total de la gestion de cet espace. Il y a des réserves où on est très interventionniste, ça peut arriver. C'est pas le cas de la Camargue, donc on n'a pas par exemple la main sur la gestion de l'eau. Donc l'eau qui arrive dans la réserve, on ne la maîtrise pas, on la subit, ainsi que l'eau qui peut rentrer de la mer, on n'est pas forcément non plus à la manœuvre. Donc notre rôle, ça va être un rôle de veilleur et d'alerte. Voilà. Mais depuis quelques années, vu la situation qui se dégrade, on a décidé d'être un peu plus dans l'action. C'est pour ça qu'on a mis en place un plan de sauvegarde du Vacarès, où là, on essaye d'être un peu plus proactif et de s'autoriser à agir pour inverser quand même la tendance qui est négative. Parce que si une réserve se dégrade, en fait, il n'y a plus d'intérêt après que ce soit une réserve. Donc, on est obligé de réagir. Voilà.
Et alors, qu'est-ce que vous faites?
Alors là, ce qu'on a initié, c'est d'augmenter les apports d'eau douce de façon artificielle depuis le Rhône, avec la reconstitution de ce qu'on appelle les prises gravitaires, c'est-à-dire ce sont des vannes qui sont situées au niveau du fleuve, qu'on doit restaurer, parce qu'elles existaient avant, et pour envoyer de l'eau douce dans le Vacarès, donc pour diminuer la salinité. Donc ça, c'est une action qu'on met en œuvre, en partenariat, parce qu'on ne peut pas le faire tout seul, et qui permettrait d'inverser en fait la tendance de la salinisation pendant quelques décennies, en fonction des éléments du changement climatique qui vont se confronter à nous.
Oui, alors justement, c'était ma prochaine question. Quel impact sur le réchauffement climatique sur la réserve? On l'a vu, hein, l'augmentation du niveau de la mer, même s'il est insensible, commence à se faire sentir par la salinisation. Mais est-ce qu'il y en a d'autres?
Alors oui, le plus impactant, le plus simple à comprendre, c'est effectivement l'élévation du niveau marin qui, sur un territoire extrêmement plat, il faut savoir que une majorité du niveau des sols dans la réserve est en dessous du niveau de la mer. Donc en fait, c'est une espèce de baignoire.
Oui, et la mer a été là il n'y a pas si longtemps, j'imagine, puisqu'on a Aigues-Mortes tout près, qui a été un port créé par Saint-Louis. Donc Saint-Louis, c'est pas le Moyen... Enfin, si, c'est le Moyen-Âge, mais c'est pas la haute antiquité. Et maintenant, c'est au milieu des terres. C'est un petit peu ce qui s'est passé dans toute la Camargue.
Oui, la Camargue a été créée il n'y a que 6000 ans, hein, donc c'est un territoire assez jeune. Donc l'élévation du niveau marin, elle va avoir un impact sur ce qu'on disait tout à l'heure, la salinité du sous-sol, les entrées de mer aussi. Et ça, c'est un phénomène qui va s'accentuer... Il va s'accélérer probablement après 2050-2060. Ensuite, il y a l'augmentation des temps de sécheresse, c'est-à-dire qu'il ne va pas forcément pleuvoir moins, mais ça va être réparti de façon différente dans l'année. Donc on va avoir des périodes de sécheresse beaucoup plus longues, ce qui va accentuer la remontée du sel, hein, puisque plus vous avez d'évaporation, plus le sel du sous-sol va remonter à la surface et probablement abîmer la végétation. Donc les deux sont liés. Ça peut aussi être au régime des vents, parce qu'ici vous avez le Mistral, qui est ici un mot en provençal qui dit que le provençal, c'est le mange-fange, c'est-à-dire celui qui mange la boue tellement il dessèche. Donc si vous rajoutez le mistral à 100 km/h, le niveau marin et l'absence de précipitation, en fait, ça peut devenir très très vite un désert. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les phénomènes les plus impactants. Il y en aura probablement d'autres qu'on a du mal aujourd'hui à évaluer. Peut-être aussi l'augmentation de certains insectes piqueurs, l'apparition de nouvelles maladies dans un territoire qui quand même est humide une partie de l'année. Donc ça peut être aussi une machine à maladies, comme ça l'a été pendant des siècles d'ailleurs.
Oui, alors... C'est fou parce qu'en fait c'est à la fois un des milieux les plus riches de France, puisqu'on est dans ce delta du Rhône, dans ces zones humides qui sont très très riches, et à la fois donc on se rend compte qu'une zone aussi riche peut être on peut avoir un effondrement très rapide en fait. On pourrait croire qu'il y a de la résilience, mais quelles sont quand même les capacités de résilience de ce territoire et de toutes les espèces qui y viennent?
Alors oui, il y a des côtés positifs évidemment. Donc c'est un territoire déjà qui est exceptionnel dans le sens où si vous prenez un jour votre véhicule et que vous partez de Gênes en Italie, que vous allez jusqu'à Barcelone, c'est la seule véritable coupure verte en fait sur le littoral méditerranéen. Vous pouvez pas l'emprunter en voiture le littoral, alors que vous pouvez passer à beaucoup d'endroits ailleurs. Donc on a comme ça une coupure qui fait presque 100 000 hectares, 60 km de littoral sableux sans un bâtiment, ce qui est même exceptionnel sur le littoral méditerranéen. Et donc ça fait une unité de près de 100 000 hectares qui est restée globalement naturelle ou agricole ou pastorale, et qui en fait quand même, ça la protège en fait cette unité. Donc ça c'est un facteur de résilience. Ensuite, il y a toujours le fleuve qui est là, donc le Rhône qui apporte de l'eau, qui apportera toujours de l'eau, ça on le sait, et les sédiments, même s'il en apporte moins qu'avant. Donc les fondements du delta existent toujours. Donc il est possible qu'il y ait des remaniements importants, mais qui est toujours quand même de la vie produite par cette confrontation entre l'eau douce du fleuve et l'eau de mer. Donc il y a quand même des... Moi je dis toujours que les ressources du delta sont plus puissantes que le mal qu'on peut lui faire. Voilà.
Alors vous essayez aussi tu l'as dit tout à l'heure, de sensibiliser. Quels sont les messages que vous essayez de faire passer? Quelle est la population qui vient ici? Parce que alors, c'est un lieu ouvert au public, c'est-à-dire ici, là, on est à la zone de la Capelière, qui est une maison du parc, à partir duquel on peut avoir des postes d'observation assez incroyables. En ce moment, il y a les grues là, qu'on a vues tout à l'heure. Mais quels sont les... quel est le message que vous essayez de passer? La population, c'est quand même plutôt des gens qui viennent voir de la nature, des passionnés, pas des... Il y a du tourisme de masse aussi, et qu'est-ce que vous essayez de leur dire?
Alors on a plusieurs équipements d'accueil, on en a un au bord du littoral au niveau d'un phare où là on a du grand public qui passe, hein, ou alors des promeneurs, des amoureux du vélo, etc. Et ici c'est vrai qu'à la Maison de la Réserve on a plus un public averti, quoique depuis le Covid on a un peu plus de familles qui sont intéressées par la nature. On reçoit à peu près 35 000 personnes nous sur l'ensemble de nos équipements, avec une importance quand même de plus en plus forte de visiteurs étrangers, essentiellement européens. Et donc le message qu'on essaie de faire passer ici, déjà nous, notre argument c'est de dire on est une vieille dame, ça fait 100 ans qu'on est là, donc on peut apporter un recul sur le territoire. Donc déjà c'est de montrer que finalement il y a des choses qui peuvent paraître graves aujourd'hui mais qui ont déjà existé, parce qu'il y a des phénomènes cycliques. par exemple les conflits autour de l'eau qui sont à l'origine de la réserve, en fait aujourd'hui ils existent encore toujours finalement d'une certaine façon, il y a des choses qui sont consubstantielles du territoire, donc c'est d'apporter un peu un recul sur le temps qui passe, un peu d'humilité aussi sur le fait que la nature n'est pas forcément contrôlable et qu'elle fait un petit peu ce qu'elle veut aussi, donc c'est un peu notre vision qu'on essaie de développer ici dans le petit écomusée, mais et aussi évidemment sur le fait que ça reste fragile, et puis ce qu'on essaye de promouvoir surtout c'est que c'est beau. C'est beau, que ça fait du bien d'être dans la nature, sa ressource, ces grands paysages qui n'ont pas bougé depuis maintenant 200-300 ans, mais ça fait aussi du bien. Et donc ça, c'est un aspect qu'on essaie de développer, c'est-à-dire de pouvoir profiter de cette beauté qui est quasiment vierge quoi, de tout aménagement. Quoi.
Et on peut vous aider en venant vous voir, évidemment, en faisant vivre, en montrant que les gens s'intéressent à la nature et à sa préservation. Mais comment on peut vous aider si on a envie de s'investir, je suppose, par de l'argent, par du bénévolat, par les deux?
Oui, alors évidemment, il y a les dons classiques, on peut adhérer à la SNPN, on peut faire du bénévolat pour l'association sous différentes formes, donc ça c'est tout à fait possible.
Ça c'est quand on est scientifique, en général, on peut faire des stages, des... Non.
Alors oui, on a des séjours en ornithologie qui sont accessibles à tous, on a des chantiers voilà, de nettoyage, enfin, on a un certain nombre d'opérations. Après, le plus simple, c'est quand même de venir nous voir finalement, et de profiter du lieu quelques temps, et finalement c'est ce qui est le plus important probablement, parce que quand on voit et qu'on vit, on protège souvent aussi bien que quand on fait simplement un chèque, quoi.
Alors il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, mais c'est vrai que quand on dit Camargue communément, ce à quoi on pense c'est les taureaux et les chevaux. Est-ce que cet élevage traditionnel extensif a un rôle? Est-ce que vous l'utilisez dans la réserve ou pas?
Alors oui, le pâturage extensif a un rôle depuis longtemps en Camargue parce que c'est un des moyens finalement de maîtriser la végétation, mais aussi d'enrichir les milieux, voilà, de participer à la diversité en fait des communautés végétales. Donc c'est très important, mais c'est pas qu'en Camargue, c'est de façon générale.
Voilà. Le crotin qu'enrichir, c'est
le crotin, puis aussi le mouvement des animaux dans l'eau, sur la s'il n'y a pas de surpâturage évidemment. Pendant très longtemps, la Camargue a été un territoire plutôt d'ovin, donc de moutons, et à partir du XXe siècle, c'est plutôt les chevaux et les taureaux qui ont pris le pouvoir en fait sur le territoire et qui se sont bien développés, et aujourd'hui ce sont des élevages qui sont bien installés, et effectivement ils peuvent avoir des côtés très positifs, et nous dans la réserve on a des parties sur lesquelles on utilise les chevaux et les taureaux. C'est bien d'ailleurs d'avoir les deux parce qu'ils n'ont pas la même action.
Oui, il y en a un qui tasse la terre, l'autre qui va avec les sabots sont différents, ils ne broutent pas les mêmes choses, pas au même moment, et donc ils sont complémentaires en fait.
Oui, c'est bien, ça peut être bien d'avoir les deux, pas partout, mais pour nous en tout cas c'est ce qu'on souhaite, et donc ils vont aussi finalement participer à la diversité des plantes, la diversité de la végétation, qui nous, sur la réserve, est un point important pour garder cette biodiversité végétale. Donc effectivement c'est un outil. Mais c'est aussi une culture, voilà. Donc c'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'il y a une forte culture autour du cheval et du taureau, toujours vivante aujourd'hui, avec des traditions, des activités, et il y a un rapport très très fort entre ce qu'on appelle les gardiens, mais plus largement tous ceux qui travaillent dans les taureaux et les chevaux, et leurs animaux. Voilà.
Et à la nature qui les entoure, évidemment.
Évidemment, puisque ce sont des élevages extensifs, donc ce sont des animaux qui vivent toute l'année dehors. Les naissances des poulains se font dehors, les saillies se font dehors, et il y a très très peu d'intervention humaine, en fait, sur ces animaux. Et donc ça crée aussi un rapport très particulier avec l'espace et avec les hommes.
Et les hommes, les gardiens, est-ce que pour vous, ce sont des vigies, parfois?
Ben oui, bien sûr. Tous les métiers qui travaillent au contact quotidien de la nature sont des vigies, que ce soit les pêcheurs, certains chasseurs aussi, qui ont une très bonne connaissance de la nature. Et effectivement, les gardiens vont avoir un point de vue et une vision qui est très intéressante et qui complémente en fait la vision des scientifiques. Il ne faut pas opposer les deux. Des fois, la connaissance spontanée de la nature ou la connaissance empirique apporte beaucoup aux scientifiques.
Vivre ensemble, c'est vraiment cette histoire un peu de la Camargue, hein, la réserve a été créée pour régler des conflits, oui, voilà, ils se disputent tout le temps. Voilà.
C'est comme un couple, quoi. Ils se disputent tout le temps mais ils ne se sont jamais séparés.
Bon, on vous invite en tout cas à venir ici à la maison de la Quepelière et sur les autres sites de la réserve de Camargue, gérée donc par la Société Nationale de Protection de la Nature, peu connue et pourtant bien précieuse dans notre pays. Gaël Emery, un mot de la fin pour inviter les gens à venir vous voir?
Ben, on est au mois de février et à partir de maintenant, c'est la plus belle saison en Camargue. Certes avec des moustiques, mais avec énormément d'oiseaux et des très très belles lumières. Donc c'est maintenant qu'il faut venir.
Très bien. Merci, au revoir.
Au revoir.
L'ours et la carotte est écoutable sur Internet. À la semaine prochaine.